Oh yeah! Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, cette petite mélodie, hein? C'est le retour tant attendu du BS Podcast! C'est le retour du BS Podcast. Hein? Déjà le 1er avril, hein? Ça passe vite. Hein? C'est ce fameux moment de l'année où le podcast devient encore plus wack qu'à l'habitude. Et c'est dans cette optique qu'on va le consacrer, cette émission, à... Dieu! Ouais! Plus de 105 épisodes et une quarantaine d'autres niaiseries en évitant habilement de parler de religion. Mais c'est à soir que ça se règle. Et comme c'était pas qu'hier, on va profiter de notre élan ecclésiastique, voyez, genre les gros mots du dimanche, c'est du sérieux notre affaire, pour jaser un peu de foi et de choses sacrées. Ça va faire un changement de nos sujets habituels, compter la foi ou de quoi de comique et absurde arrivé dans le sport et le trop grand nombre de sacs de Maxime. Et comme on va rendre à Dieu ce qui lui appartient, donc... Tout vu ce qu'il a tout fait, hein, sauf les pédophiles satanistes, hein, ça a l'air, en tout cas. D'ailleurs, vu que j'ouvre la porte à ce sujet, bon, avant que je change de poste, c'est pas de ça que je vais parler, que vous pensez. Hein. On avait commencé en 2019 une série de 3 reportages sur les grandes conspirations, il a le lien, les amis, des Canadiens de Montréal. Et c'est le moment parfait pour vous montrer le 2e reportage portant sur une des nombreuses appellations de l'équipe, soit la Sainte Flanelle.
Quel sport est arrangé? Combien de joueurs sont des extraterrestres? Quels arbitres sont corrompus? Qu'est-ce que vraiment un sport? C'est l'heure de dire la vérité sur les mensonges. Mystère, malédiction, complot, conspiration. Jeu truqué.
Ici Charles Divert et bienvenue au Jeu truqué. Les Canadiens de Montréal, la plus grande équipe sportive montréalaise jouant au hockey dans le monde entier. Une organisation qui fête cette année son 115e anniversaire. Nul besoin de dire que depuis le début de son existence, plusieurs mystères entourant le club ont vu le jour. Voici les grands mystères des Canadiens de Montréal. Ce deuxième reportage, une série de 3 sur les Canadiens de Montréal, se penchera sur l'appellation étrange de l'équipe, la Sainte Flanelle. Comment un simple bout de tissu qu'est le chandail du club pourrait être saint? Se cache-t-il quelque chose de plus gros derrière cette appellation? Notre équipe d'enquête a travaillé comme jamais pour vous amener la vérité au grand jour. Mais pour bien vous amener la vérité, il nous faut d'abord l'amener. Depuis quand nomme-t-on les Canadiens de Montréal la Sainte Flanelle? Selon les Archives nationales du Québec, le terme serait apparu pour la première fois le 7 novembre 1975 dans un article de Régent Tremblay. Nous sommes donc entrés en contact avec le journaliste pour connaître l'origine de ce sobriquet pour le club. Voici la retranscription de notre échange narré par des acteurs professionnels.
Salut Régent, ici Charles Divert de Jeux truqués. Pourquoi avez-vous surnommé les Canadiens la Sainte Flanelle? Veuillez agréer de mes salutations les plus distinguées.
Monsieur Divert, les Canadiens, là, c'est presque une religion au Québec. Et vous savez que nous, les hommes, les vrais fans, là, on n'a pas 2 jours de l'homme à fêter. Je me rappelle qu'en 83, ça se discutait dans les couloirs du Parlement. Mais c'est connu, hein? C'est dans les couloirs que les projets meurent.
Bonjour. Mais pourquoi utiliser le terme « flanelle », Régent? Veuillez prendre en considération mes futures révérences à votre endroit.
Parce que, tu sais, une femme journaliste, c'est bien, ça remplit le quota, mais ça peut pas aller autant des fonds des choses qu'un homme dans un vestiaire d'homme. Hein. Tu vas pas chercher les mêmes histoires. Elles vont te jaser du type de tissu du chandail tel que la flanelle.
Cher Régent, merci de vos réponses. Veuillez daigner de vous accaparer de mes civilités des plus courtoises.
Oui, les Canadiens semblent être un culte religieux et la flanelle représente leur chandail. Mais de là le nommer la Sainte Flanelle? Est-ce une simple envolée lyrique d'un journaliste qui écrit maintenant des articles pour une station de radio? Ou il y a plus derrière cette appellation? Concentrons-nous sur la première portion du surnom, Sainte. Qu'est-ce qu'être saint? Le concept de sainteté renvoie directement au christianisme, ce qui nous amène à nous demander comment la flanelle des Canadiens de Montréal peut-elle être sainte? Une seule personne pourra répondre à cette question, Dieu. Après plusieurs prières dans le but de contacter Dieu pour qu'il nous accorde une entrevue, ce dernier a finalement accepté de nous rencontrer en personne chez lui à Boucherville. Ne voulant pas être enregistré, nous avons donc dû camoufler un micro sous notre chercheur de vérité de terrain, Jean-Paul Jean-Ferrand, pour vous faire entendre la rencontre.
420 boulevard du Divin Lit, c'est ici!
Non, Séraphin, non, méchant chien!
Bonjour, que la paix soit avec vous et blablabla.
Dieu?
Ouais, mon fils. C'est toi le jeu truqué? Viens-t'en. Fait que, ça va-tu bien, votre petite podcast de vérité?
Ouais, en fait, nous voudrions savoir comment quelque chose peut devenir sain.
Vous savez, je me mets dans plusieurs sphères de la vie, mais pour la sanctification, je laisse ça au Vatican. Je suis beaucoup trop occupé avec les paris sportifs à cette heure. Séraphin, non, descends!
Et si, selon Dieu, ce serait le Vatican qui s'occuperait de rendre saints les personnes et les lieux? Serait-il possible que la Sainte Flanelle, les Canadiens de Montréal, soit contrôlée par le Vatican? Il ne serait pas dupe de croire qu'avec le déclin de la religion au Québec durant la Révolution tranquille, l'Église se devait de garder un quelconque contrôle sur la population. Le Vatican se serait-il immiscé dans les affaires des Canadiens afin de conserver son influence sur la société québécoise? Une idée loufoque à première vue. Mais quand on s'y penche un peu, les similitudes entre l'Église et les Canadiens de Montréal sont frappantes. Les faits sont là. On note la présence de l'orgue tant au Centre Bell qu'à l'Église. Il y a de nombreux cantiques chantés par les partisans, comme si c'était des croyants, tels que « Go Habs Go » et « Olé, 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 olé » et « Nanana, et goodbye ». Le fait qu'on considère le Centre Bell comme le temple du hockey, thème qui renvoie à la religion. Il ne faut point oublier les fantômes du Forum, qui renvoient à la vie après la mort, un concept central à toute religion. Et quand est-ce s'est passé l'un des moments charnières de la rivalité canadien-nordique? Un vendredi saint. Besoin d'une preuve absolue pour vous convaincre que le Vatican tire les ficelles des Canadiens de Montréal? Où est-ce que les fidèles partisans de l'équipe se rendent lorsqu'ils sont désespérés au bord de l'élimination en Syrie? Montez les marches à genoux de l'oratoire Saint-Joseph en priant pour une victoire à chacune d'entre elles. Objectif accompli pour l'Église, soit le retour des fidèles en ses murs. Et il n'est pas surprenant de voir l'implication du Vatican, puisque la base de la religion est l'espoir. L'espoir de faire le bien pour un monde meilleur et d'atteindre le paradis. Tandis que la base du sport, et le pourquoi il y a tant de fans de sport, est aussi l'espoir. L'espoir de voir son équipe remporter la victoire et le championnat. Tous les deux œuvrent donc dans le marché de l'espoir. Alors, la prochaine fois que vous vous rendez au Centre Bell, soyez conscient que vous vous rapprochez de la voix de Dieu. Notre troisième et dernier reportage sur les grands mystères des Canadiens de Montréal portera sur un point que nous avons effleuré aujourd'hui, l'orgue. Pourquoi la musique de l'orgue est-elle autant envoûtante? Est-ce que Youpi a à voir à quelque chose là-dedans? Toutes ces réponses seront répondues prochainement. La quête de vérité est un chemin ardu. Les faits peuvent pas être ce qu'ils laissent paraître et jusqu'au prochain mystère. Ici Charles Diver qui vous dit au prochain mystère.
Non, mais ça soulève toujours les bonnes questions de notre segment « Jeu truqué ». Les réponses ne suivent peut-être pas tout le temps, mais eux au moins, ils osent dire la vérité. Mais on va quand même se poser la question pour de vrai sans niaiser, hein, ce qu'on est plus ou moins capable de faire dans cette émission. Le Canadien est là. C'est-tu une religion? Bon, je sais que non, parce que le club paye ses taxes, mais mettons qu'on voudrait. Qu'est-ce que ça prendrait pour que les Canadiens de Montréal soient une religion? Tu sais, D'un coup qu'on est capable de créer des congés religieux à chaque fois qu'il y a un match des Habs, ça serait pas pire, hein? C'est dans cette optique qu'on va prendre le temps de faire ce qu'aucun chroniqueur ou journaliste ou analyste de basse cour a pris le temps de faire en disant que les Canadiens c'était comme une religion, c'est-à-dire, on va la créer nous autres, cette religion-là. Mais comme nos compétences théologiques se limitent à réciter des sacs quand on n'est pas capable de faire des travaux manuels, il a fallu chercher nos réponses. Et réponses, on a trouvé, ouais non, je parle comme Yoda, on les a trouvées au marché aux puces de Saint-Eustache où on a pu acheter ce qui semblait appartenir à un vieux prof d'éthique et culture religieuse déchu, une vieille cassette expliquant étape par étape comment partir une religion. Je mets ça dans le lecteur cassette et on se parle au fur et à mesure pour la créer, cette dite religion des Canadiens.
La Commission québécoise du contrôle des sectes et la municipalité de Val-d'Or vous présente comment créer votre religion. Ha! Vous êtes là. Si vous venez me voir, c'est que vous êtes probablement en crise existentielle et qu'aucune religion ne semble vous convenir et vous vous dites que vous devriez vous en créer une. Cette vidéo informative a été conçue dans le but de diminuer le nombre de sectes dans la religion et de vous dissuader de former votre propre religion. Voici donc les 9 étapes à éviter pour créer une religion. Étape 1. Établir un plan. Avant tout, vous devez savoir les raisons qui vous poussent à créer une nouvelle religion. Est-ce que c'est être déçu par les religions existantes? Avoir reçu un secret d'au-delà que vous aimeriez partager, conduire des cérémonies à votre manière, ou l'envie de faire une blague.
Bon, dans notre cas, il n'y a pas photo. C'est clair qu'on veut être célébrant d'un mariage de la religion des Canadiens. Hein? C'est évident.
Étape 2. Créer votre cosmologie. Votre religion doit répondre aux questions universelles telles que l'origine de la vie, l'avenir, la réalité, la création de l'univers, ainsi que la fin du monde.
OK, il faut aller là, je vois. Parce que, tu sais, dans le fond, la religion, ça répond à l'inconnu, hein, l'inexpliqué, ça nous rassure quand on a un but dans la vie, outre juste survivre, hein. Tout ça, parce qu'on est conscient d'être conscient, hein, pas comme les animaux, c'est de l'instinct. Hein? En tout cas, dame, on est vraiment rendu dans l'existentialisme. En tout cas, bon, comment ramener ça aux Canadiens? C'est sûr que tout le côté mythologique avec les dieux puis tout ça, ben c'est fait, on l'a, hein, les légendes du Canadien, les dieux, c'est les chandails retirés puis les dieux de second ordre, pas trop important, mais ça va être les autres de l'anneau d'honneur, hein. Puis pour les mythes, ben ça serait les exploits sur la glace, genre le but de Guy Lafleur contre Boston en série ou Aurèle Joliat qui se plante dans le tapis lors d'une cérémonie. Bref, tous les moments légendaires du club. Alors, l'origine de la vie, la création de l'univers selon la religion des Canadiens de Montréal. Oui, oui, on s'en va là. Le monde fut créé par une grosse mise en échec tellement percutante qu'elle a bougé les atomes et protons qui a fait partie l'affaire pour créer tout l'univers en 3 périodes distinctes. La première étant la création des planètes, système solaire et blablabla, nommée la période d'échauffement. La deuxième étant la création de la vie et des dinosaures, nommée la période médiane. La troisième période étant l'apparition de la vie intelligente et l'évolution de l'humain jusqu'à nos jours pour créer le hockey, nommée la période décisive. Parce que oui, on est déjà dans la période décisive, mais inquiétez-vous pas, chers mortels, il existe une autre période qu'on peut seulement accéder quand on meurt, la période de prolongation. Ou tu te retrouves dans l'au-delà dans une aréna géante pour voir des anciens joueurs décédés jouer au hockey pour l'éternité. Hein? Un Valhalla sportif, quoi. Par contre, pour se rendre en prolongation de la vie, il faut prendre pour les Canadiens, parce que si tu ne prends pas pour eux à ta mort, et tu te réincarnes, et tu as une nouvelle vie qui s'offre à toi, pour prendre pour les Canadiens cette fois-ci et espérer atteindre la prolongation. Et si tu vois le Canadien remporter la Coupe Stanley de ton vivant, ben, t'auras de meilleure place, tout simplement. L'Évangile le colloque à ce paragraphe 3, ligne 6, décrit bien ce processus.
Car, rappelez-vous, mes frères, c'est plus qu'un sport, c'est une métaphore de notre sort.
Charge. Une question demeure. Pourquoi les dieux du hockey ont créé l'univers? Ben, c'est pour que les Canadiens puissent exister, hein, aussi simple que ça. C'est pour ça que nous sommes en l'an 114 après CH, parce que l'an 0, c'est l'année de la fondation des Canadiens de Montréal, soit 1909 dans le calendrier normal. Fait que la découverte de l'Amérique, là, c'est pas en 492 après Jésus-Christ, mais plutôt en 417 avant CH. Niveau fin du monde, ben, lorsqu'il n'y aura plus de glace, on saura que le Canadien devra jouer en rollerblade, et là, ça perdrait toute crédibilité. Ça, puis que les Nordiques gagnent la Coupe Stanley, hein, ça serait un signe assez clair que la fin des temps approche. Bon, Je crois qu'on a une cosmologie assez étoffée pour l'instant. On commencera pas à tout décrire le livre à moi, hein? Ça, c'est l'équivalent de la Bible pour la religion des Canadiens. Donc, on va repartir notre vidéo instructive.
Étape 3. Faites la liste des principes fondamentaux de votre religion. Les principes donnent une ligne de conduite pour les fidèles envers les autres confessions. En quoi votre religion est-elle différente des autres? N'hésitez pas à utiliser des arguments philosophiques pour convaincre les indécis.
Oh, c'est le temps des 10 commandements. All right. Et pour la religion des Canadiens de Montréal, les principes proviennent du truc le moins clair du hockey, c'est-à-dire le fameux code. Hein. Tu sais, le respecter le code et blablabla, hein. On sait jamais c'est quoi vraiment le code. Hein. Mais dans notre religion, il y a aussi un code. Hein. Le code du partisan dévoué, mis en place par le premier détenteur de billets de saison des Canadiens de Montréal en 1910. Donc, sans plus attendre, voici
les 10 principes du code du partisan dévoué. Tu ne chialeras point sur le goût de la Molson. Tu demanderas toujours pour un gros joueur de centre. Tu appelleras aux lignes ouvertes pour jaser des Canadiens, même si ce n'est pas le sujet. Tu résisteras à la tentation de regarder un autre sport. Tu hurleras sans retenue les infidèles qui prennent pour une autre équipe. Tu arrêteras d'écouter le hockey lorsque les Canadiens seront éliminés. Tu consommeras une bière par période de jeu. Tu porteras la marchandise du Canadien à tous les jours.
Et les deux dernières inscriptions sont lisibles parce que clairement, quand le prophète a écrit ça, il devait être probablement pas mal sous. Mais juste à suivre ces principes, vous aurez une place de choix à la prolongation de la vie.
Étape 4. Choisir le nom de votre religion. Le nom de votre religion doit refléter ses fondements et son but. Choisissez-le prudemment.
Quand on y pense bien franchement, nommer notre religion « Religion des Canadiens de Montréal », c'est correct. Ça explique directement ce que la religion est, mais c'est un peu dull comme nom. Hein? Il faudrait quelque chose de plus punché. Notre proposition pour nommer la religion sera alors le « feufanisme ». Et tous les fidèles qui auront la foi envers l'équipe seront les « feufans ». Un peu comme les chrétiens avec les christianistes, les bouddhistes avec le bouddhistes et les bols de spaghettis, je suppose, avec le pastafaris, hein, avec leur manche géant de spaghettis, là. Bon, donc, si tu adhères à la religion du feufanisme, tu es un feufan.
Étape 5. Faites connaître votre religion. Maintenant que vous avez des bases solides, il est temps de faire connaître votre religion. Les experts suggèrent de commencer doucement en utilisant la technique du bouche à oreille, qui a fait ses preuves au courant de l'histoire. C'est une étape névralgique. Essayez de ne pas vous faire crucifier.
Bon, ça donne bien qu'on a une plateforme de diffusion pour faire connaître le feufanisme, hein? Le podcast Match Nul. L'affaire, c'est que vu qu'on est le balado sportif que personne n'écoute, notre reach n'est pas tant grand. Donc, notre mouvement risque de rester marginal pendant un bout, comme nous d'ailleurs. Voici donc la stratégie que j'emploierai. Match Nul et l'église du feufanisme s'associent avec le Whatever équipe Pee-Wee de Saint-Lin et on les envoie à un match des Canadiens pour donner des pamphlets sur notre religion. Tout le monde écoute les petits-enfants mignons, hein? On va leur faire entrer dans le feufanisme comme ça et dès qu'on a un peu de catch, le moindrement que tu regardes ou tu tapes les résultats des matchs des Canadiens sur ton téléphone, l'église du feufanisme va apparaître en publicité commentée sur tous les réseaux sociaux. Hey! Marketing sauvage! Rawr!
Étape 6. Trouvez un endroit pour réunir les fidèles. Que ce soit un local, un temple ou un banc de parc, visez un lieu rassembleur qui inclura seulement vos fidèles. Question d'éviter qu'ils se prennent dans une dispute.
Ça serait facile de les réunir au Centre Bell, hein? Mais en même temps, c'est onéreux et peut-être qu'on ne pourra pas pratiquer notre foi avec aisance s'il y a des partisans des autres équipes ou des badauds qui sont juste là pour être là. Ça prend un endroit où l'on peut pleinement épanouir le code du partisan dévoué, en plus de pouvoir regarder les matchs des Canadiens dans la meilleure ambiance possible. Vous me voyez venir, les lieux de culte et de réunion doivent être une brasserie sportive. Sauf le Boston Pizza, hein, on veut rien savoir d'un wannabe resto albertain qui se prend pour Boston. Imaginez, hein, faire comme si on était à la game, mais dans un bar, pour pratiquer notre foi, c'est malade, alléluia.
Étape 7. Obtenir un statut légal. Maintenant que votre religion est bien en place et que vous avez plusieurs fidèles, vous pouvez maintenant la faire reconnaître auprès des institutions gouvernementales.
J'ai été vérifié sur le site du gouvernement du Québec et pour la modique somme de 190$, on pourrait partir notre religion. Et comme nous sommes le meilleur balado sportif que personne n'écoute, on met un peu de tête dans le budget, hein? Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de remplir le document nécessaire pour former une corporation religieuse. Là, on va pouvoir avoir accès à tous les exemples d'impôts et avantages sociaux d'une religion. Et il manquera juste le petit bout de cash. Donc, je vais ouvrir le document sur mon ordinateur. Demande de constitution en corporation religieuse. C'est le bout de plat du podcast. Restez avec moi, les boys, OK? Et les girls. Et whatever, qu'est-ce que vous pensez que vous êtes. En tout cas, on verra peut-être dans le formulaire qu'il faut qu'on spécifie. Anyway, donc, ce formulaire s'adresse à toute personne qui désire faire blablabla. Bon, là, il faut que j'écrive le nom des requérants pour obtenir des lettres patentes. Nom de la compagnie... nom de la corporation religieuse, le FEFANISME. Et s'il y a lieu, inscrivez la version du nom de la corporation religieuse dans une autre langue que le français. OK. Le FEFANISMO et whatever ce que partisanerie aveugle veut dire en autochtone. Bon, requérant. Nom de famille, nul. Prénom, match. Profession, meilleur balado sportif que personne n'écoute. Siège de la corporation religieuse, la cage au sport à côté du Econo Fitness à Mascouche on the Beach. Les revenus provenant des biens immobiliers qu'il peut acquérir ou posséder la corporation religieuse sont limités à moins de 190$. Objet. Inscrivez-le ou les objets but poursuivis pour lesquels la constitution de la corporation religieuse est demandée. Moi, je comprends pas trop, fait que je vais écrire chandail des Canadiens et fanion du logo qui s'accroche sur les vitres d'auto. Bon, là, il reste juste des lignes à remplir pour dire que je suis solennel et que je ne mens pas. Tigidou, et voilà, on est prêt pour la prochaine étape!
Étape 8. Augmenter le nombre de fidèles. Les religions qui ont le plus de succès sont celles que les fidèles se rencontrent fréquemment. N'hésitez pas à multiplier les célébrations de messe ou d'adoration de votre confession. Voilà! En ne suivant pas ces étapes, vous vous assurez de ne pas créer de religion, ce qui nous aide à diminuer le nombre croissant de sectes. Ainsi, nous pourrons aspirer à un monde un peu meilleur.
Bon, c'est good. Sachant qu'on semble avoir tout en main, hein, et pour pouvoir créer le FEFANISME, je vous le promets, dès qu'on a un peu de budget, on va le lancer pour de vrai cette religion-là. Tu sais, d'un coup que ça nous permet d'avoir des rabais sur les billets de match des Canadiens ou que les ailes de poulet, ben ça aurait valu la peine, hein. Voilà ce qui complète notre segment théologique, hein. Je dois vous mentionner qu'il existe aussi un livre qui explore la question que nous avons abordée, hein, soit la religion des Canadiens de Montréal. Le livre s'appelle La religion du Canadien de Montréal, hein, je sais, original comme nous, tu sais. Et ne se sont pas forcés, hein, vous pouvez voir. Hein. Écrit d'ailleurs par Olivier Bauer, un Suisse. Un livre que je n'ai pas lu. Parce que c'est pas vrai qu'un Suisse va venir m'expliquer de quoi par rapport au hockey, hein, tu sais. Mais si vous êtes capable de passer par-dessus ce fait, ben allez-y. Sur ce, on s'en va faire une pause et au retour, ben qu'un, encore de la religion.
Ce soir, à Exorciste en cavale, le père Jean Aniel s'introduit chez les partisans des Bruins pour les exorciser.
Une autre victime, et on peut même pas appeler Claude Poirier pour négocier avec.
On a un code Bobby Orr, je répète, on a un code Bobby Orr.
On avait affaire à un fou qui voulait que les partisans des Bruins changent d'allégeance pour le Canadien.
C'était la folie furieuse. Tout le monde barrait ses portes pour ne pas être converti.
Votre fils prend pour les Bruins, cachez-le!
Le père Jean-Niel se dirigerait vers le manoir de Gildenroy.
Quelqu'un a commis des péchés. Le diable s'est introduit dans la maison. C'est clair, ça prend pour les Bruins ici.
Je savais que ça arriverait un jour. Dites à Chara que je l'aimerai pour toujours.
Ah, abominé padre,
Exorciste en cavale, tous les jeudis soirs, après Alessette, crime passionnel au bowling.
Je sais pas si vous vous rappelez de Ron Fournier, hein? Tu sais, maintenant qu'il est à la retraite de la radio, il cherche toujours à s'occuper de questions de faire un peu de cash et de garder l'esprit actif. Après une audition plus fructueuse comme répartiteur au 9-1, le voilà qui tente sa chance comme témoin de Jéhovah.
1-2-1-2, Tess, est-ce que tu m'entends, Ron?
Bonsoir, à qui ai-je l'honneur?
C'est Georges, dans la bande qui te suit. En tant que nouvelle recrue des témoins de Jéhovah, il va falloir que tu recrutes de nouveaux membres pour qu'on augmente nos pourcentages de fidèles à notre religion.
Explique-moi donc encore une fois pourquoi il faut que je les appelle devant chez eux.
C'est pour les avertir que tu vas sonner.
Ouais, ben là, on va les déranger deux fois plutôt qu'une. Ça paraît d'une bonne stratégie offensive sur mon petit Georginou.
Nos études montrent que si tu les déranges deux fois, il y a plus de chances qu'ils se convertissent. Donc, appelle cette maison-là.
Attends, là, tu veux que je les appelle? J'ai jamais fait ça avant. Moi, je réponds au téléphone, là. Je fais quoi, là? Allô?
T'as cherche à baiser sur les mêmes numéros que sur ta feuille, Ron.
Ah, OK. Le 1. Allô? Allô? Ça marche pas, le 1.
Ça, c'est le numéro de la liste. C'est le premier qu'on appelle. Son numéro a été écrit juste là, à côté.
Oui, allô?
Oui, votre opinion sur les performances de Jéhovah.
Non, tiens ton script, Ron.
Connaissez-vous la bonne nouvelle? Pas celle de TVA, là, la vraie bonne nouvelle.
Vous êtes qui, vous?
Hey, c'est bien beau chez vous, les murs rouges, le petit coq sur le top. Ouais, vraiment beau. En tout cas, je m'en viens.
Ben, wow, là, je suis pas chez nous, là.
Ben, voyons. Donc, je vous vois, là, tout nu dans votre fenêtre de chambre. Vous n'êtes pas joueur de hockey, vous? Avec un body de même.
Je vais appeler la police, vieux pervers.
Ouais, on l'a perdu. Pense au prochain appel.
Ça fait bizarre quand c'est pas moi qui le dis, ça.
Allô?
Bonjour.
Oui?
Ton script, Ron.
Ah oui. Je vous apporte la bonne nouvelle. Je peux-tu cogner?
Hein? Dis la bonne nouvelle avant qu'il raccroche.
Savez-vous qu'ils ont échangé Allen aux Devils?
Ah, ouais? Ben content pour lui.
Moi avec. Bye.
C'était quoi, ça?
Excuse-moi, j'ai paniqué.
Bon, on va oublier d'appeler avant et on va les sonner à la place direct.
J'y vais, là. Bon, le petit bungalow décrépit, là. Bon. Et où la sonnette, là-dessus?
D'habitude, c'est à côté de la porte, Ron.
Hey, c'est spécial, ce bouton-là.
Oui, bonjour. Vous avez bien sonné à la porte de Gratien. Je ne suis pas chez moi pour le moment. En fait, oui, je suis chez moi, surtout si c'est un voleur. Je suis chez moi, puis je suis dangereux. Fait que, entrez pas. Laissez votre message, puis je reviendrai vous ouvrir la porte dès que possible.
Oui, allô, c'est Ron. On passait pour vous amener la bonne nouvelle. Comme vous n'êtes pas là, ben rappelez-nous au 1-876-790-9850. Qu'on parle un peu de Jéhovah. Jéhovah t'en parler de long en large.
Ron, t'es plus à radio, t'es dans le vrai monde, là.
C'est correct. Quand j'ai pris ma retraite, ils m'ont laissé partir avec le numéro.
Prochaine maison, c'est une personne âgée, donc essaie de glisser le premier mot de la conversation, sinon tu vas perdre le contrôle.
Monsieur Fournier, ça fait du bien de vous voir encore actif, hein?
Ouais, parce que je suis
toujours. Là, il est mort, mais je lui ai laissé type radio avec des enregistrements de vos émissions en boucle.
Comment ça?
Puisse vous se rappeler de vos jours. En tout cas, on n'a plus les hivers qu'on avait dans le temps, hein? C'était plus simple. Je me rappelle, en 69, on est arrivé ici, il a fallu refaire tout le sous-sol, c'était deux
pages.
Madame,
c'est
comme ça, ça se peut pas, il y en a mis un.
C'est bien beau ce que vous
comprenez. Je vous dis, c'est beaucoup mieux comme ça.
Merci, madame, c'est tout le temps qu'on avait.
Ah, pas grave, il reste encore des maisons sur la rue, hein? Si tu peux, essaie de leur faire dire oui en partant. Ça a l'air que ça ouvre des canaux de communication.
Encore vous?
Eh oui, je me souviens, on partait pour 12 000 dans 8 pieds de neige pour aller à la petite école terre, les vaches, la maîtresse, maintenant les...
Ton affaire de lui faire dire oui en partant, là, ben ça marche pas.
Écoute, il en reste deux sur la rue, la prochaine essaie
Laisse-moi
de...
faire, j'ai une idée.
Je sais pas pourquoi, mais ça me rend un peu nerveux.
Va donc témoigner ailleurs d'abord. Hey, c'est vraiment démoralisant comme job ton affaire.
Oh ouais, ben moi je trouve pas pire, hein, tu les tiens plus longtemps que la majorité de nos témoins.
Ouais, en passant... Qu'est-ce qu'il a fait de Jéhovah pour avoir besoin d'autant de témoins? George?
Je t'entends pas très bien, hein? Bon, dernière maison, dernière chance.
Elle sent drôle, celle-là. Ça me rappelle le forum en Syrie. En tout cas, c'est un beau mortier, des belles briques rouges.
Monsieur Fournier.
Tabasse là qu'un loup qui parle.
Ron, t'es-tu correct?
Si vous pouvez le faire sortir, ceux qui habitent là, j'ai un bon deal pour vous. 10% du bacon.
Je te fais ça, mon Wolf. Attends une minute. Monsieur Fournier? Ouf, j'ai pensé que c'était encore le satané loup qui venait nous faire sortir d'ici. Si au moins il ne savait pas nous habiter, mes frères et moi. Justement, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une place juste pour vous. Des places limitées en plus. Je vais vous donner la brochure ici. C'est super fancy, ça s'appelle la salle du royaume. Bon, ça n'a pas l'air d'un royaume pis c'est en béton, mais...
En béton?
Parfait, où est-ce que je signe? Yes! Georges, j'en ai trois d'une shot. Un vrai tour du chapeau.
C'est tout pour l'épisode 106 de Match Nul. On va probablement faire une petite pause d'épisode pour le mois de mai. J'ai un projet hors Match Nul, va prendre la plupart de mon temps créatif que j'ai, mais je vais quand même essayer de vous sortir un petit quelque chose, hein, pour vous faire patienter. Vous, les nuls qui attendez juste ça, un nouveau épisode du podcast Match Nul. Donc, on se revoit à un moment donné ou dans deux mois pour un autre épisode du Match Nul.